Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Alix Barrois. Porter son regard cette semaine sur la pierre tombale du journaliste, satiriste et penseur américain Henry Louis Mencken, érigé en 1956 au cimetière de Loudon Park à Baltimore, et sur laquelle on peut lire une épitaphe assez cocasse, imaginée par le loustic plusieurs années avant sa mort, et qu'on trouve aussi dans un couloir de la rédaction du Baltimore Sun, journal pour lequel il officia de nombreuses années. Voici l'inscription traduite. Si après que j'ai quitté cette terre, vous vous souvenez un jour de moi et désirez plaire à mon fantôme, pardonnez à quelques pécheurs et faites un clin d'œil à quelques laiderons. Je vous laisse interpréter cette instruction à votre guise. Comédien à la présence magnétique, notre invité a notamment tourné sous la direction de Jacques Audiard, Catherine Bigelow ou encore Wim Wenders. On l'a vu gangster, prisonnier, terroriste, médecin, directeur de cabinet d'un maire et aussi incarner la douceur, l'émotion, la meurtrissure et même le jazz, puisqu'il a temporairement été le culte guitariste Django Reinhardt. En ce moment, on peut le voir dans la saison 1 de la série En Thérapie, toujours disponible sur le site d'Arte, et depuis le 7 décembre au cinéma, aux côtés de Lina Koudry, Raphaël Personnaz et Samir Ghesmi, dans le film Nos frangins de Rachid Bouchareb, consacré à l'affaire Malik Oussekine.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Reda Kateb.
Bonjour.
Vous êtes venu avec Polo, votre chien, donc je le précise pour les auditeurs, si à un moment il veut intervenir en micro, peut-être qu'on l'entendra.
Il le fera.
Êtes-vous content, Reda Kateb, d'avoir été mis au monde ?
Oui, oui, oui. La réponse peut être aussi triviale que la question, mais oui, je suis content d'avoir été mis au monde, ne serait-ce que pour vous répondre oui à cette question.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Toute forme de cohabitation avec les autres parfois, ou avec quelque chose qui est à la fois nous et différent. Il y a des grands moments de plénitude, des moments plus complexes, des moments de conflit, des moments de... Mais dans l'ensemble, on s'entend pas mal, ça va.
Bonne colocation. Alors... En réponse à notre questionnaire, Reda Kateb, vous avez écrit « Je me lève avant l'envie, le moteur s'allume avant que je mette le contact et ensuite je me réveille petit à petit, j'aime le café-cigarette du matin, faire le petit déjeuner à mon fils et l'emmener à l'école. » Comment est-ce qu'on peut se lever avant l'envie de se lever ? Comment est-ce que le moteur peut être allumé avant la mise en contact ?
Justement, je me pose pas trop la question. C'est vrai que quand le réveil sonne... c'est d'abord mon corps qui se lève avant que mon esprit se demande s'il va se lever ou pourquoi il va se lever. Il y a un petit temps avant de rentrer dans la journée, avant d'être éveillé et d'être à même de se poser des questions. Et de temps en temps, peut-être particulièrement en ce moment où il fait nuit plus tôt le soir ou il fait un peu mauvais à Paris, de temps en temps, c'est pas l'envie de se lever, mais c'est l'envie de rester au lit qui peut prendre de temps en temps.
La cigarette, c'est après le café ou pendant le café ?
C'est avec le café.
Ça va ensemble.
Bien sûr, un grand conseil à donner à toute la jeunesse qui nous écoute.
Est-ce que vous fumez beaucoup ? Je vais m'y remettre pour avoir votre voix.
Non, alors là, pour le coup, non. Non, j'avoue, c'est pas une manière de patiner ma voix comme certains acteurs parfois qu'on peut entendre.
Bon, un enfant, c'est une responsabilité, on doit se lever ne serait-ce que pour lui. Est-ce que vos réveils étaient les mêmes avant d'être père, Reda Kateb ?
Ils étaient peut-être un peu plus longs, c'est-à-dire, voilà.
Une heure ou deux.
Il y avait un peu moins des choses à faire tout de suite, des choses auxquelles. Penser assez rapidement et puis oui enfin je trouve que c'est très joyeux de se réveiller avec un enfant et de l'amener à l'école. Ouais.
Dans un instant, il sera entre autres question de clown à l'hôpital, de musique gnawa, de Louis Jouvet, de Kateb Yassine, de Rhône, de plainte et de voilier. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
J'ai froid dans mes cheveux. Ma vie est oppressée. Et ton nom tout à coup s'échappe de mon cœur. Quand je ne te vois pas, le temps m'accable et l'heure, à je ne sais quel poids impossible à porter. Je sens languir mon cœur qui cherche à me quitter, et ma tête se penche et je souffre et je pleure. Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir, je tressaille, j'écoute et j'espère immobile. Et on dirait que Dieu touche un roseau débile, et moi tout moi répond, Dieu faites-le venir. J'ai froid dans mes cheveux, ma vie est oppressée, et ton nom tout à coup s'échappe.
L'attente d'Ezekiel Paillès dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Reda Kateb. David Bowie et Queen, le morceau Under Pressure, pour introduire ce que vous aimeriez changer dans la société, Reda Kateb, faire baisser la pression, la tension parfois ambiante et ajouter un peu de bienveillance. Pensez-vous que la tension ambiante est augmentée ?
C'est toujours un peu délicat de dire la tension augmente par rapport à quoi, par rapport à quand, par rapport à des périodes que j'aurais vécues ou que je n'aurais même pas vécues. Mais voilà, on sent en tout cas qu'on en a trop, que les gens en ont trop, qu'il y en a, qu'on pourrait s'en débarrasser d'une belle partie, quoi.
Est-ce que vous en souffrez ? Est-ce que vous êtes du genre nerveux ?
C'est pareil, c'est pour moi difficile de me définir comme ça sur une couleur. Je pense que parfois je peux être extrêmement nerveux à l'intérieur tout en ayant l'air hyper calme et apaisé à l'extérieur. Et à d'autres moments, beaucoup plus tranquille. Tout ça est en mouvement, quoi. Et j'aurais beaucoup de mal à me définir. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien jouer des personnages.
Et alors, Reda Kateb, quand ça vous arrive, donc sans vous définir, quand vous ressentez trop de pression, comment est-ce que vous y faites face ? Est-ce que vous avez des astuces personnelles ?
Oui, j'ai un petit chien qui m'accompagne partout.
Très mignon, Polo.
Et voilà, c'est une de mes astuces, c'est-à-dire la présence d'un animal. Je le vois quand je l'amène dans des endroits, enfin je l'amène partout, et je vois comme moi il me détend. C'est un petit chien qui est un peu comme un petit chien de dessin animé, donc voilà, il est très très rigolo. Et puis le lien qu'il peut faire entre les gens et l'apaisement qui peut y avoir autour. Je l'ai vu des fois sur des plateaux de cinéma, par exemple, où je sentais que le stress était augmenté en l'absence de mon chien, par exemple. Chez les autres, je parle pas seulement chez moi.
Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a fait un échange. Il y a une équipe qui est sortie du studio et nous, on est entrés. Et le chien a fait la fête à tout le monde, est allé saluer tout le monde comme un homme d'affaires très poli.
Ouais. Il connaît bien son travail. Ouais.
Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait baisser cette pression collective ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesure ? Imaginons que nous soyons au gouvernement, par exemple.
Ah là là, alors là, j'ai des propositions concrètes à faire.
Ah bah, je les attends.
Ça rejoint le film, d'une certaine manière, qui vient de sortir. Plus de justice.
Mon frangin.
Ouais, plus de justice. Peut-être considérer les autres, pas seulement justement par leur statut, comme ils se définissent, une manière de parler différente en fonction du statut social de la personne qu'on a en face de soi, mais mettre l'humain au centre, quoi. Et l'humain, il a besoin de respirer.
Respirer littéralement ?
Littéralement et au figuré, et puis de respirer singulièrement et de manière commune aussi. C'est-à-dire, il y a aussi voilà cette chose, cette possibilité de se réunir, d'être ensemble. À nouveau, la salle de cinéma peut participer de ça. Nous, on le voit tous ces derniers temps, on fait beaucoup de débats avec les gens suite aux projections, et on sent que tout d'un coup, l'échange de paroles d'après une projection, il y a à nouveau une manière d'être ensemble. Et peut-être que beaucoup de choses peuvent commencer par ça.
On m'avait amené dans les soins intensifs. Moi, j'avais les boules, quoi. Je dis, qu'est-ce que je veux faire pour un enfant qui est attaché à des machines, qui se réveille d'une opération hyper grave. Puis, j'avais une toute petite boîte à musique dans ma poche. Et puis, je l'ai sortie. Ding, 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 ding. Les yeux sont ouverts. Quand j'ai fini, j'ai pu la flûte, j'ai joué, les yeux sont ouverts encore plus. Et puis je voyais la machine qui faisait tip, 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 que ça ralentissait un petit peu son cœur. Je me dis, bon, est-ce que je fais quelque chose de bien ou pas bien ? Et puis, comme je ne savais plus quoi faire, ben j'ai commencé à chanter, et là, elle a souri.
Caroline Simmons, fondatrice de l'association Le Rire Médecin au micro de Chris sur la chaîne en 2001, elle revient sur sa première expérience de clown dans un hôpital new-yorkais. C'est une association dont vous êtes le parrain, Reda Kateb. Elle a fêté ses 30 ans l'année dernière. Et j'ai lu que vous alliez réaliser un film dessus.
Oui, alors, en tout cas, c'est vraiment la rencontre avec Caroline et cette association qui a fait germer en moi l'envie de raconter quelque chose qui se passe dans ce monde-là. Ça a été d'abord la découverte d'un monde. Caroline m'a vraiment ouvert les portes de son association. J'ai pu, avant de commencer à écrire un scénario, passer à peu près un an d'immersion avec les clowns dans les services hospitaliers, découvrir vraiment cette chose de clown hospitalier que je ne connaissais pas avant. Et là, oui, je suis en train de préparer un film dont l'action se passe là-dedans. C'est l'histoire d'une acrobate danseuse qui se blesse et qui va devenir clown à l'hôpital.
On peut difficilement s'empêcher de voir une résonance avec votre court-métrage Reda Kateb, Pichoun, où vous campiez un clown qui faisait des spectacles pour enfants dans un salon.
Oui. Alors ça, c'était un film autobiographique.
Vous avez fait ça, vous avez été clown d'anniversaire, je crois.
Absolument. Donc vraiment, alors, du coup, clown vraiment pour l'occasion, quoi. Clown pour arrondir les fins de mois. Mais je dois dire que ça a participé de mon conservatoire. C'est-à-dire que survivre au milieu de 25 enfants déchaînés dans un salon dans le 16e arrondissement, c'est extrêmement formateur.
Vous avez aussi joué dans Hors Normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache sur l'univers des enfants autistes. Je crois aussi que ça vous a influencé.
Oui, en tout cas, c'est après avoir travaillé sur ce film Hors Normes que j'ai eu envie de continuer finalement quelque chose qui s'est tissé aussi sur ce film dans la découverte d'un monde qui pourtant est vraiment juste à côté de nous, qui est vraiment pas loin du quotidien et de l'héroïsme de certaines personnes dans ce monde-là et de pouvoir mettre le projecteur sur ces gens-là en étant en essayant en tout cas de pas être uniquement dans l'héroïsme mais dans l'humain de ces gens avec tout ce qui les traverse comme pour que ce soit vivant quoi.
Le Rire Médecin, c'est 132 clowns professionnels, plus de 80 000 spectacles par an pour les enfants. Ils interviennent dans plus de 50 services pédiatriques. Bon, c'est beau, nécessaire, émouvant. Comment, enfin, c'est peut-être une question idiote, mais ces clowns que vous avez fréquentés pendant un an, comment vivent-ils ces interventions qui doivent être bouleversantes?
Ils le vivent avec toute la sensibilité d'un clown, qui est... qui est quelqu'un, du coup, le clown, c'est un inadapté à la société, c'est un exilé d'une certaine manière, c'est quelqu'un voilà, qui est pas fait pour ce monde, et quand il tombe, tout le monde rigole, il lui arrive plein de malheurs, mais c'est jamais vraiment sérieux, au contraire, ça a vocation à faire rire. Et donc ils ont cette capacité à être dans le présent, à se connecter extrêmement vite aux enfants. Et en même temps, voilà, il faut à la fois avoir cette très grande sensibilité et être assez structuré pour poser les, pour être à la bonne distance, pour ne pas devenir peut-être l'être indispensable d'un enfant pendant une période et de ne pas pouvoir continuer derrière à l'accompagner, d'être à sa juste place. Voilà. Et j'ai rencontré des gens qui sont vraiment à leur juste place.
Reda Kateb, dans une vidéo où vous parlez de cette association, vous qualifiez les clowns de poèmes sur pattes.
Ah ouais.
C'est joli.
Ouais, c'est des. Bah ouais, du coup, c'est des poèmes en mouvement, quoi. Ouais.
Un autre de vos engagements, c'est le festival Ciné-Banlieue que vous parrainez, un festival créé en 2006 qui présente et récompense dans le cadre d'un concours, je lis la présentation officielle, les jeunes talents du cinéma issus des quartiers. La dernière édition s'est tenue en novembre dernier. Depuis 2012, vous êtes parrain du festival et président d'honneur d'Extramuros, l'association qui organise le festival, fondée en 2004 par Aurélie Cardin. Le but, donc, soutenir et faire émerger des talents. Vous en avez vu des talents marquants émerger ?
Oui, notamment Alice Diop, dont j'ai hâte de voir le dernier film, que j'ai rencontré avec les gens de ce festival il y a à peu près presque une dizaine d'années, et qui était déjà relié à ce que font Aurélie et Julia avec ce festival, qui n'est pas seulement un festival une fois par an, mais qui est vraiment un travail au long cours d'accompagnement de personnes qui se disent que, enfin, le cinéma n'est pas forcément fait pour elle, quoi. Voilà, dans des lieux où c'est pas forcément une option d'être scénariste, réalisateur, chef opérateur ou autre. Et pour des personnes qui ont une inspiration, des choses à dire, ce festival fait une espèce de d'accompagnement pour développer des techniques d'écriture de scénario, savoir rentrer dans les dispositifs de financement qui permettent de faire que les choses finissent par exister. Et donc c'est extrêmement précieux de pouvoir multiplier les points de vue, de pouvoir voir arriver au cinéma des nouveaux regards, c'est ce qu'on cherche.
Et donc là, par exemple, si parmi nos auditeurs, il y en a qui nous écoutent et qui voudraient faire du cinéma, quelles sont les conditions ? Habiter en banlieue ?
Pour le festival Ciné-Banlieue, oui. Alors oui, je pense que sur le site internet, il y aura vraiment toutes les infos.
D'accord, je ne fais pas de piège alors.
Mais je pense pas justement que habiter en banlieue soit une condition.
Parce d'accord.
Parce elles ont vraiment un esprit d'ouverture qui est justement pas dans le sens de cantonner la banlieue à la banlieue. Et c'est une des choses aussi sur lesquelles on s'est mis d'accord quand elles m'ont proposé ce parrainage. L'idée est surtout pas de rester dans nos niches, mais plutôt au contraire d'ouvrir les choses, quoi.
D'accord. Et donc allez voir sur le site de Ciné-Banlieue.
Ouais.
Vous avez aussi choisi, Reda Kateb, de parler de l'association Droit d'urgence qui, depuis 1995, informe et aide les personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité à faire valoir leurs droits. Il y a plein de permanences juridiques. Vous collaborez avec eux ?
Oui, enfin, du coup, comme une forme de parrainage ponctuel sur certains événements, mais je suis leur travail, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et je trouve que cette question du droit est rarement évoquée, mais qu'elle est vraiment hyper importante. Que à nouveau, connaître ses droits, ça peut protéger des personnes qui n'ont pas grand-chose pour se protéger, quoi. Et du coup, voilà, il y a des permanences d'avocats, il y a un travail qui est fait pour pouvoir débloquer des situations par le droit, donc par nos lois communes qui nous protègent.
Est-ce qu'il y a aussi un engagement dans le choix de vos rôles, Reda Kateb? Je pense à Hippocrate de Thomas Lilti, où vous faites un médecin algérien un peu précaire, hors norme, ou le dernier film dans lequel vous avez joué, Naufrangin de Rachid Bouchareb, consacré à l'affaire Malik Oussekine, dans lequel vous jouez le frère de l'étudiant tué par les policiers.
Oui, mais je ne cherche pas ni à me définir à nouveau comme artiste engagé, acteur politique ou je ne sais quoi. J'ai l'impression qu'on attire à soi, vers soi, des projets qui sont plutôt cohérents avec qui on est, et que donc il doit sûrement y avoir quelque chose qui se dessine de ce bout de parcours que j'ai fait jusque-là. Et en même temps, je me vois très bien jouer dans des choses qui n'ont absolument rien de politique. C'est pas. Mais je ne me verrais pas, par contre, participer à un film avec lequel je suis en désaccord. Ni sur le fond, ni sur la manière de faire un film.
Kateb, ça signifie écrire en arabe, et c'est justement ce dont on va parler.
Mon père était de double culture. Il connaissait l'arabe et le français. Et c'est lui qui, la mort dans l'âme, qui m'a dit il faut être réaliste. Si tu veux vraiment faire quelque chose, si tu ne veux pas être dans la fausse position où j'ai été moi-même, il faut d'abord commencer par dominer, apprendre cette langue dominante, le français. Pour ce qui est de l'arabe, il ne sera jamais trop tard pour y revenir, puisqu'il y avait lui, il y avait ma mère. Mais les choses ont tourné autrement, parce que dès que j'ai quitté l'école coranique et que je me suis mis à apprendre le français, j'ai été pris d'une espèce de passion de la langue et de la poésie, très jeune, à partir de, je ne sais pas, 8 ou 9 ans, qui m'a poussé évidemment à aller un peu trop loin, parce que vous voyez ce que ça suppose quand on est un petit garçon. D'une part, on est avec sa bande, avec les camarades, on est avec la horde enfantine, et puis de l'autre côté, la poésie est une espèce de solitude. Et quand je suis devenu collégien, là, les camarades se moquaient du poète qui s'enfermait ou qui écrivait des vers, enfin, qui n'était pas comme les autres.
Le poète et écrivain algérien Kateb Yassine au micro de Moussa Abadi en 1967. Kateb Yassine, dont vous êtes le petit-neveu Reda Kateb. Kateb est son nom de famille, mais il a inversé. Oui. Vous l'avez connu enfant ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré. En revanche, j'ai travaillé avec son fils, Amazir Kateb, le chanteur du groupe Gnawa Diffusion. Et voilà, on a essayé de faire revivre aussi certains de ses textes à travers des soirées de poésie et de musique ensemble, et une pièce qu'on avait montée dans le Nord à Roubaix il y a quelques années.
Est-ce que c'était Le Cadavre Encerclé ?
Non, c'était Mohamed Prend ta valise.
D'accord, et Le Cadavre Encerclé, vous l'avez monté, non, en 2003 ?
Alors non, en revanche, c'était un ensemble de textes poétiques qu'on avait appelé Le Poète Encerclé, qui fait référence, oui, à cette pièce, Le Cadavre Encerclé, mise en scène par Jean-Marie Serrault à l'époque. Un grand texte qui commence par le monologue d'un personnage qui s'appelle Lardar, et qui se lève d'un tas de cadavres le lendemain des émeutes de Sétif, le 8 mai 1945. Et voilà, c'est une pièce incroyable d'engagement et de poésie.
Vous parlez arabe ? On vous entend parler arabe, en tout cas, dans le dernier film de Rachid Bouchareb.
Oui, mais je ne maîtrise pas la langue. Donc, je comprends plus ou moins. Je commence à bredouiller quelques mots quand je passe du temps en Algérie ou au Maroc. Mais je ne peux pas dire que je le parle couramment. Et du coup, Kateb Yassine, qui écrivait en français, dont la plupart de l'œuvre est écrite en français, il a écrit en arabe dialectal plus tard, avec une troupe de théâtre avec laquelle il parcourait l'Algérie pour aller jouer pour les villageois dans des campagnes plus reculées. Mais le fait de pouvoir rencontrer, d'une certaine manière, mon algérianité, je dirais, à travers un auteur qui écrivait en français, ça m'a beaucoup aidé.
Il a une vie très romanesque, et dans l'extrait qu'on entend, et comme dans son œuvre et ses choix, on entend une complexité dont vous semblez avoir hérité, Reda Kateb, malgré le fait que vous ne l'ayez pas connu. C'est-à-dire cette sorte de complexité humaine qu'on embrasse volontiers, sans se définir justement.
Oui, peut-être. En tout cas, il y a certains textes comme ça qui ont été vraiment fondateurs pour moi. Et je pense notamment à un texte où il dit... c'est une interview qui donne, et où il dit « En moi, le poète combat le militant, et le militant combat le poète. » Et je trouve que c'est pour le coup un conflit fructueux, Dans le sens où c'est comme s'il y avait une vigilance du militant, donc c'est un mot de l'époque aussi, hein, à remettre aussi dans le contexte, mais du citoyen engagé qui fait attention à ce que le poète ne se love pas dans sa posture, dans sa tour d'ivoire, dans une chose détachée de la réalité. Et le poète est vigilant vis-à-vis du militant pour que jamais il oublie sa liberté derrière une banderole, un slogan ou un groupe, quoi. Et ça, je sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, ça a été assez fondateur pour moi. Ouais.
Pour préparer l'émission, j'ai lu un recueil qui s'appelle Soliloque, qui est plein de sang, de larmes et de facéties. Je vous cite deux phrases pour le plaisir. J'ai appelé mon malheur Jules, et peut-être viendra-t-il une pleureuse pour m'égayer.
C'est ça, c'est dans un poème qui dit, qui s'appelle « Dans mon cœur fume un marchand de brochettes ».
Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous conseilleriez d'autre aux auditeurs dans ces recueils de poésie, puisque ces poèmes figurent dans votre panthéon, Reda Kateb ?
Alors, il y a justement cette très belle édition qui s'appelle « L'œuvre en fragments », qui recoupe beaucoup de poèmes de jeunesse de Kateb Yacine, des choses qu'il a écrites... lorsqu'il avait la vingtaine à peu près, et qui aborde après des thèmes qui parcourent toute son œuvre, avec la figure notamment de Nejma qui veut dire l'étoile, et qui est à la fois une femme aimée, une femme inaccessible, et l'Algérie.
Et le titre de son roman célèbre.
Exactement. Et c'est une manière, de commencer à déguster par petits bouts une œuvre dans laquelle après, notamment sur ce roman Nejma, il faut s'investir un petit peu pour rentrer, puis pour passer une phase un peu déroutante, où la chronologie est assez éclatée, où les choses sont... On n'est pas sur une autoroute narrative.
On entend Omar Arafa et les musiciens Gnawa Dessaouira que vous avez rencontrés et enregistrés, Reda Kateb. Vous nous avez envoyé une vidéo où il chante dans la rue et joue d'un instrument à cordes qui semble quasi molle et qu'il utilise aussi pour les percussions. Un gembri, c'est ça, un luth tambour à trois cordes.
Oui, c'est ça. Cette vidéo, c'était à Marrakech.
Là, c'est la vidéo qu'on entend.
Oui,
oui, donc
absolument.
Il est tout seul.
Lui, il est seul. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré... dans la rue, justement, qui joue pas très loin de la grande place touristique Jemaa el-Fna à Marrakech, et qui est devenu un ami que j'ai pas vu depuis un petit moment, mais quand j'allais plus régulièrement à Marrakech, j'avais pas besoin de l'appeler, je revenais à cet endroit, à ce coin de rue, et il était toujours là. Et puis après, il m'a invité chez lui, et c'est devenu vraiment une grande rencontre, et... Voilà, il me fait penser un peu à ces figures du blues, à ces Robert Johnson, Skip James, ces artistes devant lesquels on peut passer en se disant c'est un pauvre qui fait la manche dans la rue et qui sont riches de trésors, quoi.
Alors justement, la musique Gnawa, c'est une musique traditionnelle qui daterait au moins du XVIe siècle, perpétuée par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne, sur le même principe que le blues ou le negro spiritual aux États-Unis. Le Maghreb, vous n'en aviez, Reda Kateb, que quelques souvenirs d'enfance en Algérie dans la famille de votre père. Vous avez eu envie de revenir vers l'Afrique, mais à votre façon, par la musique et au Maroc, donc pas en Algérie.
Dans un premier temps, oui, c'est vrai. Je suis revenu en Algérie, j'ai pu y tourner un film il n'y a pas longtemps et y passer vraiment du temps. J'avais besoin de faire mon propre chemin et avec finalement comme boussole la justesse de la musique, quoi. Voilà. Et puis dans cette musique Gnawa et dans ce qu'elle raconte, il y a cette mémoire de l'esclavage, il y a cette chose où, comme dans le blues ou le negro spiritual, où finalement c'est en chantant les paroles de l'oppresseur qu'on va pouvoir raconter d'où on vient. Et ça se joue avec des grandes castagnettes métalliques qui imitent le son des chaînes des esclaves. Et je trouve ça assez extraordinaire, c'est presque alchimique, quoi, de faire sonner ces chaînes.
On prête au Gnawa des vertus thérapeutiques.
Oui, alors ce sont des, c'est du coup une musique rituelle qui est jouée lors de soirées très codifiées, qui s'appelle des lilas et qui dure de la tombée du jour jusqu'au lever du jour. Et c'est des nuits qui sont un peu des voyages symboliques dans lesquels sont invoqués différentes familles de génies, dans lesquelles on trouve différents types de transe et différentes suites musicales associées à ça. C'est presque comme peut l'être un film, une pièce de théâtre ou autre chose, un voyage pendant un moment sans bouger de sa place, quoi.
Reda Kateb, vous jouez un peu de gambri et vous chantez en dilettante.
En dilettante, merci de préciser.
Non, je vous cite en fait, je vous cite une interview.
Ah bah voilà. Donc j'avais bien fait de préciser. Mais oui, en dilettante, et vraiment, je prépare aucun album, j'ai pas de velléité à me produire dans quoi que ce soit, mais c'est justement parce que ça fait du bien.
I told the black man he didn't understand. I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss, and I'm supposed to have a plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man? Sitting in my sunshine, trying to catch a tan. Listen, outside I can feel the sun's rain. I love it, inside I was bumping John Wayne. Made peace, you can never say the wrong name. ADHD, say my life's one long game. And don't fuck it up, say reveal nothing. Guys I used to run with are steady still puffing. But what did they expect? Yo, what did they expect? Hey yo, I never used to think of the effect. When my dad passed, straight biological neglect. The other one, sunset, sitting on the steps, I was left. Mum came, heavy in her breath. Tears on my face, transferring to her chest, I was left. And she would say, he ain't coming. But I can tell him that you love him. And I would shout, nah, love means nothing. Say I wanna hug, I wanna talk, I want something. See, I reached the black man, he wouldn't take my hand. Told the white man he didn't understand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss, and I'm supposed to have the plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man? Sitting in my sunshine, my eyes wide, tears cried. The news lied, but he died. So who am I? And yo, I'm asking, who am I? Because my kid will maybe have them blue eyes, and he won't understand the pain that's in mine. And late at night I wonder, maybe that's why. Because I never wanna hear the same cry from a kid who doesn't fit in to the world that he live in. A half cast, just kidding, wear a mask, just kidding, move arms, just whip him. Yeah, no sitting, there's no living. And yo, you can't hate the roots of the tree.
Nobody Knows de Loyal Carner sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Reda Kateb.
L'embellie. Eva Bester.
Elvire est dans un état qui est si fort intérieurement. C'est si plein d'amour intérieurement qu'elle est quasiment inconsciente de ce qu'elle dit. C'est une somnambule qui entre. Or, ta marche d'entrée est une marche consciente déjà. On sent que tu entres volontairement. Tout ce que tu dis là-dedans est conscient d'un bout à l'autre. Tu donnes l'inverse du morceau, c'est-à-dire une conscience constante, une politesse mondaine. Avec l'accentuation de certains mots, ça fait discours du directeur de conscience à sa pénitente, alors que le morceau est le contraire. C'est quelqu'un qui entre dans un état d'égarement total.
1986, extrait du spectacle de Brigitte Jacques donné au Théâtre National de Strasbourg. Elvire Jouvet, 40, avec Philippe Clévenot et Maria de Medeiros. Attention, la suite demande de la concentration. Le spectacle est filmé par Benoît Jacquot et adapté des notes de cours données par Louis Jouvet au Conservatoire et sténographié par Charlotte Delbault et de l'ouvrage du comédien Molière et la comédie classique. J'espère que vous avez tout compris. Entre février et septembre 1940... Louis Jouvet fait travailler la seconde scène d'Elvire de Don Juan de Molière à Claudia, élève au conservatoire, c'est ce qu'on vient d'entendre. Comment avez-vous découvert cette curiosité, Reda Kateb ?
À la bibliothèque du centre Georges Pompidou, où j'ai passé beaucoup de temps lorsque j'étais lycéen, que je prenais mes premiers cours de théâtre. J'adorais aller là-bas, j'adorais l'ambiance autour de la machine à café, les gens qui se parlaient, et puis ce coin où on pouvait voir des documentaires. Donc à l'époque, c'était des grosses cassettes qu'il fallait réserver. Et puis, les premiers éléments de ma formation d'acteur. Il y avait les cours, il y avait le parcours de mon père, bien évidemment, mais aussi des documentaires comme celui-là qui, tout d'un coup, me faisaient réaliser à quel point c'était infini, quoi, le travail dans lequel j'étais en train de m'engager.
Peut-être pouvez-vous dire un petit mot sur votre père pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de tout votre arbre généalogique.
Bien sûr. Mon père, il s'appelait Malek Eddine Kateb. Il a commencé à faire du théâtre en Algérie, il est venu en France en 63 ou 64, et c'est lui qui m'a donné envie de commencer à faire ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous a parlé dans Elvire Jouvet 40? On voit donc sur scène cette Elvire un peu maltraitée par Louis Jouvet, qui lui donne des conseils d'une délicatesse, d'une grande beauté, d'une grande profondeur pour interpréter le rôle, mais elle se fait un peu malmener tout de même.
Un petit peu, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments où ça bouscule un petit peu, mais en même temps, il y a vraiment une main qui reste tendue de sa part, quoi. Alors, c'est tout sauf, c'est pas le professeur du film Whiplash, par exemple.
Ah oui, non, c'est pas humiliant ni méchant. Oui, je l'ai vu.
Ouais,
Not My Tempo.
Il y a quelque chose, chez Louis Jouvet, il a écrit aussi un livre qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Écoute mon ami. Et oui, justement, il parle à un jeune acteur, et c'est toujours avec beaucoup d'amitié, mais en même temps une espèce d'exigence et de passion incroyable qui fait que dès qu'on pense avoir atteint le but, il y a quelque chose qui s'essouffle, qui est terminé. Donc il faut toujours aller chercher plus loin. Et cette pièce de Don Juan, voilà, moi c'est ma pièce préférée de Molière. Je me disais j'aurais aimé avoir un professeur de théâtre comme lui, quoi.
On peut voir la pièce sur YouTube, on mettra la référence sur le site. Et à un moment, Louis Jouvet conseille à son élève de ne pas fuir la douleur. Il dit même que tout effort qui en vaut la peine n'est pas exempt de douleur.
Oui, après...
Faut-il souffrir forcément pour arriver à quelque chose de bien ou qui en vaut la peine?
Pas du tout. Alors là, moi, je suis pas du tout dans cette démarche. Et je pense que Louis Jouvet non plus n'était pas là-dedans. En revanche... si on doit jouer la douleur, et je le joue aussi dans Nos Frangins de Rachid Bouchareb, on doit faire avec l'instant, avec ce qui vient, et puis donner à voir les histoires qu'on raconte. Mais je crois, je n'ai aucun goût pour le masochisme dans ce métier, ni dans aucun autre, et penser que une belle œuvre d'art doit être absolument née de la souffrance. Moi, je suis plutôt du côté du plaisir.
Reda Kateb, là on parle d'un film, bien qu'il s'agisse initialement d'un spectacle, mais j'en profite pour revenir sur un épisode vous concernant. Vous avez été projectionniste dans un cinéma.
Oui.
À Ivry-sur-Seine.
À Ivry-sur-Seine, ouais. Où je prenais justement mes premiers cours de théâtre. J'étais aussi étudiant, mais vraiment dilettante en lettres modernes à Paris. Et j'ai pu découvrir beaucoup de films grâce à cette occasion. Et puis, j'ai appris à projeter les films en pellicule juste avant que la pellicule disparaisse. Donc, j'ai eu ce moment, ce rapport tactile avec les films, avec la pellicule de films, avant de commencer à jouer dans des films.
Vous avez été aussi caissier et ouvreur dans ce cinéma. Vous déchiriez les petits tickets?
Voilà, j'avais une lampe de poche pour accompagner les gens dans la salle. Projectionniste, ça n'a pas duré longtemps, parce que j'étais vraiment un des pires projectionnistes de l'histoire du cinéma, je pense. J'ai fait 2-3 bêtises, certaines conscientes, d'autres moins.
Comme quoi, par exemple?
Comme organiser des projections avec des amis une fois que le cinéma était fermé. Les voisins se sont plaints le lendemain. Un jour aussi, on recevait le film dans diverses bobines qu'il fallait monter ensuite sur un gros plateau. Et une fois, j'ai refait le montage d'un film comme ça. Les bobines étaient inversées dans les boîtes. Et donc, je me souviens très bien, c'était un film qui s'appelait « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» qui fonctionnait vraiment sur les saisons. Et où, du printemps, on passait en automne et de l'hiver en été. les spectateurs à la sortie me disaient c'est vraiment étonnant le traitement de la chronologie dans ce film. Je répondais, vous savez, le cinéma d'auteur, hein, c'est parfois un peu spécial.
Reda Kateb, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir et vous avez répondu un beau bout de chemin et peut-être un jour une traversée de l'Atlantique en voilier. Vous savez manœuvrer un bateau ?
Alors non, je devrais peut-être commencer par là. Mais pour l'association Le Rire Médecin, là, il y a quelques jours, j'ai baptisé un bateau qui partait pour la route du Rhum. Et j'ai pu faire un petit tour en voilier le matin après ce baptême. Et tout d'un coup, je pensais à ce skipper qui, quelques jours plus tard, allait partir seul pour traverser tout l'Atlantique. D'un côté, ça fait un peu peur et de l'autre côté, je l'envie un peu.
Pensez-vous avoir déjà accompli un beau bout de chemin, comme vous dites ?
Bah, c'est difficile. Je suis très très peu dans le rétroviseur ou dans un regard posé sur mon expérience, mais ouais, dans l'ensemble, un bon petit bout de chemin. Mais voilà, j'ai envie de continuer ce chemin et de voir où il m'emmène.
Le morceau Room with a View de Rhône, sorti en 2020, qui est aussi un spectacle qu'il a conçu avec le collectif La Horde. Rhône et La Horde, Reda Kateb, c'est ce que vous recommandez de beau aux auditeurs.
Oui, alors je sais qu'il n'y a pas tant de dates que ça et qu'elles sont vite complètes lorsqu'ils jouent, mais moi c'est un spectacle que j'ai découvert au Théâtre du Châtelet à Paris il y a quelques semaines et que j'ai trouvé vraiment... stupéfiant le lien entre les danseurs et ce musicien et ce qui se passe. C'est très difficile d'en parler, c'est très très difficile de poser des mots justement sur un spectacle comme celui-là. C'est vraiment tout d'un coup le temps qui se suspend, des sensations, des choses sur lesquelles j'essaye pas forcément de poser du sens, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de beau qui réunit plusieurs disciplines. La danse, le travail de musique en direct de Rhône, les lumières. Et tout d'un coup, bah, le spectacle est fini et on voudrait que ça continue.
Il y aura des dates à Saint-Médard-en-Jalles les 13 et 14 janvier 2023. Reda Kateb, vous avez déjà pris des cours de danse ?
Un tout petit peu pour une série dans laquelle je faisais un bandit, rappeur et tout ça. Et à un moment, je m'étais dit, ce serait chouette de faire du crump. Donc, c'est un type de danse hip-hop très, très rapide. Bon, il y avait une scène dans une boîte de nuit. J'ai pris quelques cours pour ça, mais je suis pas sûr que ce soit resté au montage, ma performance. Je suis pas sûr que ce soit le début d'une vocation quelconque.
Bon, en tout cas, nous, avec ce clin d'œil à Rhône, nous le saluons puisqu'il est venu dans l'émission il y a peu. Et on arrive tranquillement mais sûrement à l'engagement de fin d'émission, Reda Kateb, qui est de ne jamais vous plaindre de faire de la promotion. Alors j'espère que vous ne vous plaindrez pas non plus d'avoir fait une émission qui n'est pas de la promotion, comme l'embellie. Vous n'avez pas peur de vous lasser de répéter les mêmes choses ?
Parfois, on est un peu... quand on passe des journées entières à répondre à des questions qui sont régulièrement les mêmes, et donc à faire des réponses qui sont régulièrement les mêmes. Moi, j'essaye de pas être trop là-dedans. Donc parfois, je m'épuise à me renouveler sur des questions où, en fait, je pourrais reprendre la même réponse qui est valable. Mais j'essaye toujours d'être aussi avec la personne avec qui je parle. Donc déjà ça c'est peut-être un remède à la mélancolie à la mélancolie
de la
promo.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Remède à la mélancolie, aucun souvenir.
et de l'autre côté non, c'est évidemment il y a des jours où ça peut être un peu fatigant, il y a des jours où on peut en avoir presque la nausée de s'écouter, enfin de s'entendre soi-même parler ou de se voir ou d'être ramené sans cesse à soi, mais l'un dans l'autre, moi je mesure le privilège incroyable que j'ai de pouvoir faire des films que je choisis, d'être libre, de même d'être devant vous et de dire ce que je veux dire. Enfin, donc voilà, c'est des contraintes mesurées, quoi.
On a un petit bonus pour vous, Reda Kateb.
Et monsieur boit du vin bouché. Non, là, je vous jure, ça dépasse tout. Le clochard, maintenant, voilà que ça donne dans le chien de luxe et dans l'appellation contrôlée.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Eh ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils s'en vont, les réformateurs du monde. Allez, viens, ma belle, qu'on foute le camp, qu'on voit plus ces affreux.
1959, Jean Gabin dans Archimède, le clochard de Gilles Grangier. Je sais que c'est un acteur que vous vénérez, Reda Kateb. Et dans la scène qu'on entend, bon, les dialogues sont signés Michel Audiard, il est justement avec son chien, auquel il vient de donner à manger. Et il y a trois types dans un parc qui le critiquent et il leur répond, comme on vient de l'entendre.
Magnifique. J'ai une photo de ce film encadrée chez moi.
C'est vrai ?
Quelque part. Ouais, ouais, ouais. Où il est avec son petit chien, justement, dans les bras. Que dire après Jean Gabin ?
Un ou deux titres à conseiller aux auditeurs à voir ou à revoir ?
Bien sûr. La bête humaine.
Ouais, de Renoir.
La grande illusion, ah, de oui. Renoir aussi. Deux films un peu plus méconnus, Gasoil et Des gens sans importance.
Merci beaucoup Reda Kateb pour ce partage et d'être venu.
Merci à vous. Merci à vous.
On peut vous voir dans le film Nos frangins de Rachid Bouchareb et toujours en replay sur Arte dans la saison 1 d'En Thérapie. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme crépite avec la même ardeur qu'un chapeau melon fanatique. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.